14h10 à Paris, 8h10 à Haïti, l'heure de retrouver le journal des Amériques. C'est avec vous Anne Verdaguy, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, le retour de Juan Guaido au Venezuela. Comment l'opposant et président par intérim autoproclamé sera-t-il accueilli à la frontière? Quels sont les différents scénarios qui l'attendent? On en parlera dans la revue de presse. Et on verra avec notre correspondant Benjamin Delisle que la population commence à exprimer un certain ras-le-bol et à douter de la stratégie de l'opposition face à un pouvoir inflexible. On reviendra aussi sur le revirement aux États-Unis de certains républicains qui vont voter contre l'état d'urgence nationale décrété par Donald Trump pour construire son mur, et puis le début du carnaval de Rio. Et pour la première fois cette année, une campagne contre le harcèlement sexuel. On écoutera le reportage de Sarah Cozzolino à Rio. Arrivera-t-il à rentrer au pays? L'opposant vénézuélien Juan Guaido a annoncé son retour ce lundi après 10 jours d'absence et il pourrait être arrêté dans le cadre d'une enquête préliminaire pour usurpation du pouvoir. Le président par intérim autoproclamé a appelé une nouvelle fois la population à descendre dans la rue ce lundi à partir de 11h heure locale. C'est donc un nouveau défi lancé à l'actuel chef de l'État, Nicolas Maduro. Ce bras de fer inquiète la communauté internationale mais aussi les Vénézuéliens qui commencent à douter de la stratégie de l'opposition. Le reporter à Caracas de Benjamin Delisle.
Nous sommes en plein carnaval à Caracas, mais les rues sont bien vides. Après plusieurs semaines mouvementées, le calme semble être revenu, les doutes aussi. Elio, un artiste de rue qui se dit neutre, accuse l'opposition d'avoir raté son coup et éloigné l'espoir d'un changement.
Est-ce que non se peut utiliser l'aide humanitaire
On ne peut pas utiliser l'aide humanitaire à des fins politiques. Quand ni la Croix-Rouge, ni l'UNICEF, ni aucune organisation internationale sérieuse ne soutient l'initiative, on voit ce que ça donne. Ça ne marche pas.
Pour Elio, il ne fait aucun doute que Guaido va être arrêté. Francky, un opposant convaincu, est moins affirmatif.
Je crois que s'il l'arrête, les gens vont s'enflammer, sortir dans la rue violemment. Ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Quoi que fasse le gouvernement, Francky est désormais persuadé que la seule manière de sortir de cette crise, c'est l'intervention militaire. Et beaucoup partagent son avis, comme Félix, lui aussi très opposé à Nicolas Maduro.
Les manifestations ne marchent pas, rien ne marche ici. Rien de ce qu'on fait n'a d'effet sur lui. La seule solution, c'est l'intervention. Et on le regrette beaucoup.
Sauf que cette intervention semble compromise, la majorité des alliés internationaux de Juan Guaido la rejette. La tâche de l'opposant s'annonce donc compliquée, surtout s'il se retrouve derrière les barreaux. Benjamin Delisle, Caracas RFI.
Et on retrouve Stéphanie Schuller pour la revue de presse des Amériques. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Anne.
À quelques heures de son retour annoncé au Venezuela, Juan Guaido s'est adressé hier soir à ses concitoyens via les réseaux sociaux.
Au cas où le régime tenterait de me kidnapper, nous avons défini des mesures à prendre d'abord en termes de mobilisation, a indiqué Juan Guaido. Nous devons également donner des instructions claires à nos alliés internationaux. Plus unis que jamais, beaucoup plus mobilisés que jamais, nous gagnerons tant que nous restons unis. Nous progressons, a déclaré encore Juan Guaido, cité par le quotidien El Universal.
Alors, comment réagit le régime vénézuélien, Stéphanie?
Eh bien, Nicolas Maduro a prévenu que si Juan Guaido rentrait au Venezuela, il allait devoir affronter la justice. Mais force est de constater que ce retour au pays n'est pas seulement délicat pour le président par intérim autoproclamé, constate le quotidien péruvien El Comercio. Nicolas Maduro devra décider s'il s'expose à provoquer un scandale international en essayant d'arrêter l'opposant ou s'il permet à son adversaire d'ignorer les injonctions des institutions proches des chavistes et ainsi de saper son autorité.
Quelle est la marge de manœuvre de Nicolas Maduro aujourd'hui?
Dans les colonnes d'Effecto Cocuyo, le politologue vénézuélien Luis Salamanca décrit 3 scénarios qui s'offrent au gouvernement. Juan Guaido entre au Venezuela sans que les forces de sécurité n'interviennent. Juan Guaido entre et se fait arrêter, ce qui provoquera indéniablement une réaction non contrôlable de la rue. Et, dernier scénario, Juan Guaido est empêché d'arriver sur le sol vénézuélien. Cette dernière option pourrait entraîner un essoufflement rapide de l'actuel mouvement de contestation qui se trouverait de facto coupé de son meneur. Selon Luis Salamanca, empêcher Juan Guaido de rentrer chez lui au Venezuela serait, de ce fait, la meilleure option pour le gouvernement de Nicolas Maduro et la moins risquée.
Alors, dans ce contexte tendu, les appels à une solution négociée au Venezuela se multiplient.
Oui, à l'instar du New York Times, qui écrit ce matin « La meilleure chose serait d'arriver à un accord négocié entre M. Guaido et M. Maduro sous l'égide des Nations Unies. Cet accord devrait mener à des élections libres et sous observation internationale. » La Russie, quant à elle, par la voix du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, s'est dit prête ce dimanche à participer à des conversations bilatérales avec l'administration américaine pour discuter d'une sortie de crise au Venezuela sur la base de la charte de l'ONU, rapporte de son côté El Nacional.
Direction les États-Unis à présent, Stéphanie, où semble se dessiner une majorité au Sénat contre l'urgence nationale décrétée par Donald Trump.
Oui, le sénateur républicain Rand Paul a fait savoir ce week-end qu'il n'était pas d'accord avec la ligne choisie par la Maison-Blanche pour obtenir le mur à la frontière avec le Mexique. « Je ne peux pas voter pour donner le pouvoir au président de dépenser de l'argent que le Congrès ne lui a pas accordé », a déclaré Rand Paul, estimant qu'il était dangereux de priver le Congrès de son rôle de contrôle, rapporte le journal Bowling Green Daily News. Le sénateur du Kentucky devient ainsi le quatrième élu républicain à la Chambre haute à prévoir de voter contre l'urgence nationale décrétée par Donald Trump. Or, Anne, il faut justement 4 sénateurs au camp démocrate pour obtenir la majorité de 51 élus sur les 100 que compte le Sénat.
Donald Trump qui a d'ores et déjà annoncé qu'il userait de son droit de veto en cas de rejet de sa déclaration d'urgence nationale.
Mais un rejet par le Sénat à majorité républicaine, après celui essuyé à la Chambre où les démocrates sont majoritaires, représenterait un nouveau revers sérieux pour le président, déjà en difficulté après l'échec du sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un et malmené par les révélations de son ancien avocat Michael Cohen, souligne le Washington Post.
Pour finir, une série de tornades a frappé ces dernières heures le sud des États-Unis, Stéphanie.
La plus importante a touché le sud-est de l'Alabama où au moins 23 personnes ont été tuées, rapporte le Miami Herald. Les conditions météorologiques étaient trop dangereuses pour entamer immédiatement les recherches des survivants qui pourraient encore se trouver sous les décombres, Anne.
Merci Stéphanie Schuller pour cette revue de presse des Amériques. On va revenir à présent sur le virage conservateur aux États-Unis du côté de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays. Après la nomination de 2 juges par Donald Trump, tous deux issus de la très puissante Federalist Society, le président américain veut imprimer son empreinte pour les décennies à venir avec des juges nommés à vie. Aujourd'hui, sur les 9 juges qui siègent à la Cour suprême, 5 sont des membres de cette Federalist Society, un réseau de juristes à l'idéologie réactionnaire proche du président. Un dossier signé Carlotta Morteo.
En pleine campagne présidentielle, Donald Trump avait fait une annonce inédite.
Nous avons une excellente liste de gens très talentueux, très instruits, très intelligents.
Une liste de 25 noms, 25 candidats potentiels au poste de juge à la Cour suprême. Parmi eux, 2 ont depuis effectivement été nommés par Donald Trump, Brett Kavanaugh et Neil Gorsuch. Qu'ont-ils en commun ? Eh bien, ils sont membres de la première heure de la Federalist Society. La chercheuse Amanda Hollis-Bruski, professeure à l'université Pomona, lui a consacré un livre.
La Federalist Society est née dans le contexte politique des années 80, avec l'émergence d'un agenda conservateur et populiste qui va propulser Ronald Reagan à la présidence. Les fondateurs de la Federalist Society étaient une poignée d'étudiants de Yale, Harvard et l'Université de Chicago, frustrés que les idées conservatrices soient très peu représentées dans leurs cours de droit, dans les cercles académiques et les revues juridiques, alors qu'elles montaient en puissance politiquement.
Les membres de la Federalist Society considère que la Constitution n'est pas un texte vivant, censé évoluer avec son temps. Ils défendent une lecture strictement littérale, ne s'intéressent pas à l'esprit de la loi et interprètent le sens de la Constitution tel qu'ils pensent que les pères fondateurs le faisaient en 1787.
Aux États-Unis, à la différence de nombreux pays dans le monde, nous avons une Constitution très vague, écrite en des termes ambigus. Par exemple, elle interdit, je cite, « des punitions cruel et inhabituel, c'est le 8e amendement. Mais que veut dire cruel ? Que veut dire inhabituel ? C'est sujet à interprétation par la Cour suprême. Les juges fédéraux ont donc beaucoup de pouvoir pour façonner la manière dont les Américains et les politiciens comprennent la Constitution.
Dès ses débuts, la Federalist Society va rapidement attirer des financements d'entreprises privées et d'organisations conservatrices qui voient d'un très bon œil l'avancement de leurs idées dans les corps académiques et juridiques. Amanda Hollis-Bruski.
Ils veulent réduire le pouvoir de l'État fédéral par rapport au pouvoir des États. Et puis, il y a un agenda social. Si tu es conservateur, tu ne veux pas que le gouvernement te dise si tu as le droit de prier à l'école ou pas. Tu ne veux surtout pas qu'il autorise l'avortement à l'échelle nationale ou le mariage homosexuel. On pense aussi à la réglementation du port d'armes. Ce sont des guerres culturelles, mais ce sont les tribunaux qui statuent sur ces questions. L'autre aspect central pour eux, c'est de réduire les réglementations sur les entreprises. Depuis les années 30, après la Grande Dépression, la Cour suprême a autorisé le gouvernement fédéral à gérer l'économie. Il a imposé le droit du travail. C'est le genre de choses sur lesquelles les conservateurs et les libertariens veulent revenir au nom de la libre concurrence.
Sous les présidences démocrates de Clinton et d'Obama, leurs idées ont continué d'irriguer la société américaine en coulisses. La Federalist Society a étoffé son réseau, formé des milliers de jeunes avocats et largement diffusé ses idées grâce à un usage efficace de la vidéo et des réseaux sociaux. Alors quand Donald Trump a été élu, il leur a donné les clés des institutions judiciaires, les tribunaux des districts, les cours d'appel et surtout la Cour suprême.
Les républicains ont stratégiquement placé leurs juges. 5 juges de la Cour suprême sur 9 sont aujourd'hui des membres de la Federalist Society. Et ils sont très jeunes, donc ils vont être là longtemps. Sachant qu'il suffit de 5 voix pour obtenir la majorité, les juges progressistes peuvent toujours essayer de s'organiser, de mieux diffuser leurs idées au sein de la société et leur vision de la Constitution. Mais ils n'ont plus de pouvoir politique, donc ils n'ont plus d'impact.
Le vice-président de la Federalist Society, Leonard Leo, fait aujourd'hui partie des très proches de Donald Trump. C'est lui qui a rédigé la liste des juges potentiels à la Cour suprême et c'est probablement lui qui proposera le remplaçant de la juge Ruth Bader Ginsburg, 85 ans, malade d'un cancer.
Un dossier signé Carlotta Morteo.
RFI, les voix du monde.
Le carnaval de Rio, début des festivités hier soir avec le défilé des différentes écoles de samba. À l'occasion de ce premier carnaval depuis l'élection du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, plusieurs formations ont fait passer des messages politiques pour plus de tolérance. Une campagne de prévention contre le harcèlement sexuel est également mise en place cette année, car depuis septembre dernier, le harcèlement sexuel est considéré comme un crime dans le code pénal brésilien, passible de 1 à 5 ans de prison. Le reportage à Rio de Janeiro de Sarah Cozzolino.
Raquel Fial joue du saxophone dans un bloco féministe, un groupe de musique de rue qui défile pendant le carnaval. Chaque année, elle et ses amis sont victimes de harcèlement.
Je ne me sens pas à l'aise au carnaval. On développe certaines stratégies pour se protéger, notamment en évitant d'être seule. Par exemple, si je veux aller aux toilettes, je me fais accompagner par 2 amis. Et il y a certains blocos où je préfère ne pas y aller parce que je sais qu'il y a plus de harcèlement.
Non, c'est non, mon déguisement n'est pas une invitation ou encore mes paillettes ne sont pas là pour attirer ton attention. Des slogans que les femmes vont parfois jusqu'à se tatouer sur le corps le temps du carnaval. Des messages qui paraissent être évidents et pourtant c'est loin d'être le cas. Renata Rodriguez est la fondatrice de Mulheres Rodadas, le premier bloc au féministe de Rio créé il y a 5 ans.
Une étude a été faite en 2016 qui montre que la majorité des hommes pensent que si vous êtes une femme et vous êtes dans la rue pendant le carnaval, vous ne pouvez pas vous plaindre d'être harcelé et que le carnaval, finalement, n'est pas un endroit pour les femmes honnêtes. Je pense qu'au Brésil, il existe encore une certaine confusion par rapport au corps de la femme entre ce qui est public et ce qui est privé. Ce n'est pas parce que votre corps est dans l'espace public que votre corps est un bien public. Vous ne pouvez pas être touché, embrassé si vous n'en avez pas envie. Et c'est très étrange, mais il faut rappeler que la loi vaut pendant le carnaval comme pour le reste de l'année.
Cette année sera le premier carnaval avec une nouvelle législation contre le harcèlement, désormais passible de 1 à 5 ans d'emprisonnement. À l'occasion, la défense civile de l'État de Rio de Janeiro, ensemble avec le Bloco Mulheres Rodadas, distribue un guide contre le harcèlement durant le carnaval. Flavia Nascimento coordonne le programme de défense défense des droits des femmes au sein de la défense civile.
C'est très important de diffuser ça, déjà pour ceux qui éventuellement sont à l'origine de ce type de comportement, pour qu'ils sachent que désormais c'est considéré comme un crime, alors qu'avant il n'y avait qu'une simple contravention, ce qui était en contradiction avec les conséquences que ce type d'acte a sur la femme qui en est victime. Et au-delà de ça, c'est aussi pour informer les femmes de leurs droits quand elles sont victimes de ces faits.
Le travail de changement des mentalités pour fonctionner doit être relayé par les hommes eux-mêmes. De plus en plus se disent féministes au Brésil. Pour João Rodrigues, 22 ans, la première règle du carnaval, c'est le respect.
Je ne reproduis pas ce type de comportement, je ne le soutiens pas non plus. Je suis fondamentalement contre et j'appuie le mouvement des femmes. Mais c'est à elles de parler, pas à moi.
João avoue qu'il ne se sent parfois pas le bienvenu dans certains blocages féministes. De plus en plus nombreux et diversifiés, certains refusent la mixité, une erreur selon Raquel Fialho.
Je pense que c'est fondamental qu'un bloco avec une proposition féministe inclue les hommes. Parce que finalement, le féminisme, c'est une proposition de changement culturel. Donc, pour que ce changement fonctionne, il faut inclure une grande partie de la population. Les femmes n'y arriveront pas sans les hommes.
Une tâche difficile alors que le pays compte parmi les taux de féminicide les plus élevés au monde. 4 femmes sont tuées chaque jour depuis le début de l'année. Et les femmes noires sont encore plus touchées par les assassinats et le harcèlement, auquel s'ajoute le racisme de la société brésilienne. Ce lundi, la mythique école de samba de Mangueira défilera en rendant hommage à une figure féministe, la militante noire et lesbienne Marielle Franco, assassinée l'année dernière. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et c'est l'heure de retrouver l'actualité des Outre-mer avec le journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une, c'est une première en Guadeloupe. 2 communautés d'agglomération signent ce matin une convention d'entente et de travail.
La communauté de la Riviera du Levant et celle du Nord Grande Terre, ça représente à peu près 30% de la population guadeloupéenne, elles s'associent pour mettre en place, entre autres, un traitement qualifié de moderne et vertueux des déchets ménagers. Gilbert Pincemaille.
Une convention d'entente qui vise 3 domaines principaux. La question de l'eau, rappelons que les 2 EPCI sont membres du SIAG et militent tous deux pour la restructuration de ce syndicat et la création d'un syndicat unique de l'eau et de l'assainissement pour toute la Guadeloupe. La GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, avec la création d'un groupement de commandes entre les 2 EPCI qui permettra la mise en place d'un diagnostic des travaux à réaliser sur l'ensemble des 2 territoires communautaires. Et enfin, le traitement des déchets, avec la création à l'horizon 2022 d'une unité de valorisation des déchets de 60 000 tonnes pour un coût prévisionnel de 45 millions d'euros, financé à 80% par les fonds européens. Et c'est sans doute ce projet d'envergure qui se veut respectueux de l'environnement et qui a d'ores et déjà un avis très favorable de la région, des services de l'État, de l'ADEME et de la Commission de régulation de l'énergie, qui connaîtra un coup d'accélérateur avec l'officialisation de cette entente plus que cordiale entre les 2 EPCI.
Direction maintenant le carnaval en Martinique avec le groupe Alternaval qui défilera à Fort-de-France aujourd'hui avec un bois-bois. Un bois-bois, c'est une grande marionnette, un bois-bois donc en forme de tortue. Bois-bois réalisé avec des matériaux de récupération récupérés, hélas, dans la nature. Thomas, membre du groupe, est au micro de Fabrice Théodose.
C'est composé d'une vieille annexe récupérée, de morceaux de plastique, de morceaux de canettes, de morceaux de bois, de palettes récupérées, de grillages, d'un peu tout ce qu'on a pu trouver, de sandales, de lunettes, de canettes de bière, tout ce qu'on a pu récupérer en fait pour essayer de faire, de prouver qu'on peut faire quelque chose de beau avec peu de moyens. Et surtout essayer de remonter un petit peu cette conscience de tout ce qu'on achetait, parce qu'au final ça c'est rien, et ce qu'on arrive à faire avec ce qu'on jette.
Donc un beau message à faire passer pendant le carnaval.
C'est plutôt important de faire passer ce genre de message quand c'est festif, parce qu'on a plutôt l'habitude de voir ça dans un aspect un peu rébarbatif et puis culpabilisant, et c'est pas trop le message ni du collectif ni de celui qu'on veut faire passer. En fait, on peut juste sensibiliser en disant il y a plein de choses, essayons de faire évoluer doucement nos comportements pour essayer de faire un petit peu mieux.
Voilà, c'est lundi gras aujourd'hui, en Martinique bien sûr, mais aussi en Guadeloupe et en Guyane. Bon après-midi Anne, à demain.
Merci Benoît Ferrand, on suivra bien sûr l'histoire de ce bois fort intéressante. Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. N'oubliez pas notre site internet www.rfi.fr, vous allez à émission et puis la page Haïti et Amérique et vous nous retrouvez tous les jours en podcast. On se retrouve demain 14h10, heure de Paris. Très bonne journée à tous. We'll